Fabienne Sintès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean Marfour. Jean-Marc, le ministre des Affaires étrangères ukrainien est à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN. Il est arrivé ce matin avec un message simple, des armes, des armes, des armes. Après 6 semaines de guerre, le débat monte dans les pays occidentaux. Faut-il livrer plus d'armes et des armes plus offensives aux Ukrainiens? Et c'est pour vous un débat difficile à trancher, c'est votre monde d'après.
Alors en fait, le premier tournant s'est déjà produit et il ne faut pas le minimiser. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'avait jamais livré ou financé des armes létales à un pays étranger. Le Rubicon a donc été franchi une première fois puisque les livraisons à l'Ukraine sont massives depuis un mois et demi, livraisons d'armes dites défensives. Les plus emblématiques sont les missiles solaires et les missiles anti-chars, les Javelin, les Stinger, les NLAW livrés par milliers par les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sans oublier quelques missiles Milan fournis par la France et aussi des S-300 ou des drones turcs ou américains. L'objectif est toujours le même avec ce type de matériel, arrêter la progression des chars et les attaques d'avions ou d'hélicoptères à basse altitude. Il faut y ajouter des livraisons de véhicules blindés type Marder allemand ou Bushmaster australien, de mitrailleuses, de pistolets, de cartouches, de gilets pare-balles, d'appareils de vision nocturne et puis aussi du partage d'intelligence sur les positions russes via les observations satellitaires ou des opérations de réparation des armes ou véhicules endommagés lors du premier mois de combat. L'affaire est donc assez significative et semble bien coordonnée entre les différents pays occidentaux, même s'il est impossible d'avoir tous les détails sur ces livraisons d'armes. Le sujet reste relativement opaque, en France en particulier.
Mais alors, on parle donc d'armes défensives pour enrayer l'agression russe, Jean-Marc, mais le débat désormais, c'est d'envisager des armes offensives.
Oui, franchir une deuxième fois le Rubicon. Livrer des armes qui permettent aux Ukrainiens de contre-attaquer. Des chars, des missiles plus longue portée, des avions évidemment. On se souvient de la proposition polonaise de livrer des MiG-29 via les bases américaines en Allemagne. Des voix s'élèvent pour plaider dans ce sens, par exemple le cinéaste Romain Goupil dans une tribune publiée cet après-midi par Le Monde. Le raisonnement repose sur 3 types d'arguments. Primo, il ne faut pas laisser aux Russes dicter le tempo de la guerre. Il faut donner à l'Ukraine les moyens de choisir sa stratégie, ses théâtres d'opération, faire reculer Moscou, c'est l'argument militaire. Secondo, l'argument psychologique. Envoyer un message à Vladimir Poutine, lui montrer qu'il se trompe en regardant les Européens d'un œil condescendant, les prenant finalement pour des lâches, des faibles, héritiers des Munichois lors de l'abandon à Hitler de la Tchécoslovaquie en 1938. Enfin, tertio, l'argument géopolitique. Il faut arrêter Vladimir Poutine, il est trop dangereux. S'il parvient à conquérir ne serait-ce qu'une partie de l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là et il menacera l'Europe tout entière parce qu'il est désormais animé par un délire conquérant et une volonté d'abattre l'Occident. Il faut donc armer massivement l'Ukraine pour infliger une défaite à Poutine. Inutile de discuter avec lui. Le sanctionner économiquement ne sert à rien. Il faut le combattre militairement.
Alors, sauf que ça, c'est tout de même très, très risqué.
Oui, c'est pour ça qu'officiellement, en tout cas, c'est toujours une ligne rouge. Pas question pour l'Occident de fournir à l'Ukraine des armes offensives, des avions en particulier. Là encore, plusieurs arguments viennent étayer ce raisonnement alternatif. 1. Militairement, s'il y a davantage d'armes, le risque est élevé qu'il y ait davantage de morts, comme dans un effet mécanique. Il faut toujours se méfier des va-t-en-guerre. 2. Livrer des armes offensives, c'est prendre le risque d'apparaître comme co-belligérant, parti au conflit, et servir finalement sur un plateau un alibi à Poutine pour élargir la guerre à tout le continent européen, l'engrenage. 3. Il faut garder un canal de discussion avec le Kremlin pour trouver une porte de sortie, pas acculer Poutine parce qu'alors il n'aurait plus rien à perdre et il serait prêt à commettre le pire chimique, biologique, nucléaire. Arbitrer entre ces 2 raisonnements, c'est difficile parce que le choix dépend en partie de l'analyse que l'on fait de la personnalité du patron du Kremlin. Et en même temps, cet arbitrage peut s'avérer déterminant pour l'avenir de toute l'Europe. À court terme, on peut aussi assister à une variante, un non-officiel, un peu hypocrite, livrer des armes offensives, mais sans le dire vraiment. La République tchèque livre déjà des chars qui sont bien des armes offensives. Et il y a peut-être aussi d'autres initiatives de ce genre plus discrètes. Mais ça n'est pas tenable à moyen terme. Il va bien falloir se décider à assumer une position.
Jean Marfour et Le Monde d'après, merci beaucoup pour nous. Ça continue le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous. On revient dans quelques secondes.